France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Essayez voir dans un dîner. Vous êtes un homme en pleine maturité sexuelle et vous expliquez que vous êtes contracepté et que d'ailleurs, ce soir, comme chaque jour, vous portez un slip chauffant qui remonte vos testicules pour qu'elles soient à température du corps, c'est-à-dire trop chaud, si bien que vous ne produisez plus de spermatozoïdes. Regardez autour de la table. D'abord, probablement un ange va-t-il passer au-dessus des convives et puis observez comment vous regardent les hommes et comment vous regardent les femmes. Écoutez les ricanements aussi, parce que forcément, ça va venir. C'est vrai que c'est pas forcément sexy, le slip chauffant, dont vous aurez une description détaillée dans cette émission, évidemment, mais scoop, les crampes, les éruptions cutanées, la prise de poids, les règles en vrac provoquées par la pilule, c'est pas glamour non plus. Alors, la conversation va partir autour de la table. Quelqu'un va parler de vasectomie, c'est sûr, là pour le coup, c'est plus radical. Peut-être qu'un ou une autre, mieux informé, expliquera que la contraception masculine, on en parle depuis plus de 40 ans, qu'une prise hormonale, une piqûre par semaine, ça existe, qu'en plus du slip chauffant, il y a l'anneau thermique, mais que les labos n'ont pas fait d'efforts, que les hommes non plus, pas d'argent pour les études, pas de cobayes. Et c'est marrant, allez savoir pourquoi, quand on a inventé le Viagra, on a manqué ni de labo, ni de cobaye. Vous êtes une femme, tournez-vous vers votre homme, tiens, posez-lui la question. Est-ce que tu t'es jamais préoccupée de ma contraception quand on s'est rencontrés? Et est-ce que tu avais posé la question à chacune de tes ex? La charge, c'est pour nous, pour les femmes. Mais les choses sont en train de changer. Il y a des hommes aujourd'hui qui veulent leur part dans cette responsabilité. Absolument. Est-ce que si on leur proposait des méthodes aussi naturellement qu'on parle pilule à une femme, ils seraient intéressés? Mais certainement. Guillaume Dodin qui est avec nous et Stéphane Jourdain, son acolyte et notre ami de France Inter, ont fait ce voyage et cette enquête sur la contraception masculine. C'est le téléphone sonne de ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Comme il se doit, on commence avec le standard et c'est vous, Simon. Bonsoir.
Bonsoir.
Simon, on vous écoute.
Que dire? Oui, là.
Que dire?
Allez-y. À propos de la contraception masculine, j'ai été émerveillé par l'enquête journalistique de Guillaume et Stéphane, c'est ça?
Oui, absolument.
Exactement. Et je le conseille à tout le monde. C'est un roman graphique formidable. Et ce qui est très notable, c'est le fait que cette réflexion et ces noms qu'on voit tout au long du livre, à savoir Jean Mieuxet, andrologue, professeur Souffire, ou encore Maxime Labrieux, il me semble, celui qui a fait l'androswitch, c'est des noms qu'on entend et qu'on voit très rapidement quand on s'intéresse à la contraception masculine. Mmh. Et ça va être les seuls noms. Mmh.
Et vous, Simon, vous en êtes où?
Ça va faire 6 mois que je suis contracepté via l'équivalent du slip chauffant, mais sous forme d'anneau en silicone, qui est l'androswitch de Maxime Labrieux. Voilà.
Et alors, parce qu'on posera la question aussi à Guillaume qui est là et nos invités et aux autres auditeurs d'ailleurs, est-ce que ça a été compliqué, Simon, de le trouver, ne serait-ce que ça, une fois que vous vous dites, ok, moi je prends ma part, donc qu'est-ce qui existe et voilà ce que je vais décider d'utiliser, est-ce que c'est compliqué ou pas?
Eh bien, c'est pas compliqué, puisqu'en fait, il y a des réseaux très organisés qui en parlent. Je sais que via certains plannings familiaux, on peut trouver donc ce petit anneau en silicone, on peut faire son propre slip chauffant. Donc en fait, quand on en parle, quand on commence à se poser la question, on voit que les réponses peuvent venir très rapidement. Le site pour acheter l'androswitch est bien présent sur Internet. Il y a des réseaux qui en parlent, et les réseaux militants, que ce soit féministes ou autres, vont pas mal en parler. Et du coup, ça nous permet d'avoir accès facilement.
Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ce premier témoignage et pour cette jolie entrée en matière pour discuter ensemble et jusqu'à 20h. Guillaume Dodin est avec nous. Bonsoir, Guillaume.
Bonsoir.
C'est vous, le co-auteur de ce roman graphique, Les Contraceptés. Vous avez donné de votre personne, d'ailleurs. Je vous félicite. On en parlera également. Gerson de Marceau est avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes sage-femme, vous êtes bénévole au planning familial à Montpellier et vous organisez des consultations sur la contraception masculine. Guillaume Dodin, je posais la question à Simon de savoir si ça a été facile pour lui parce que quand on vous lit et même quand on interroge des gens comme Simon, on a l'impression qu'alors des fois il faut aller chercher dans le dark web ou alors il faut savoir coudre. J'ai bien vu jusqu'à quel point beaucoup d'hommes fabriquaient eux-mêmes leur slip chauffant ou jockstrap, quel que soit le terme qu'on lui donne. C'est vrai que dès qu'on cherche, c'est assez facile, mais il faut quand même être un petit peu habile de ses mains parfois.
Oui, il y a la difficulté technique et puis il y a peut-être la difficulté mentale de beaucoup d'hommes dont on va parler. Pour la difficulté technique, maintenant, l'anneau se trouve sur Internet. On peut l'acheter comme on achèterait des DVD ou des livres sur Internet, donc c'est relativement facile. Ça n'empêche pas qu'il faut faire un suivi médical pour l'utiliser. Et c'est beaucoup plus facile que les autres méthodes, que le slip chauffant, qu'on ne peut pas acheter sur Internet, qu'il faut
coudre
soi-même dans des ateliers. Il faut trouver des ateliers. Il y en a dans quelques villes de France, mais ça se trouve pas beaucoup. Et la méthode hormonale aussi, dont on va peut-être parler, une injection intramusculaire hebdomadaire. Et ça, pour trouver le produit, manifestement, c'est pas très simple. Toutes les pharmacies n'en ont pas. Il y a pas de réseau structuré là-dessus.
Alors, si c'est compliqué, enfin, s'il faut aller sur Internet pour trouver l'anneau, est-ce que ça veut dire que si vous allez chez votre médecin, on peut pas vous le prescrire? En fait, il faut que vous alliez le chercher vous-même.
Oui, c'est un peu un rapport inversé. On va chez son médecin, peut-être avec son anneau, et puis en fait c'est le patient qui parle au médecin de cette méthode, parce que souvent les médecins ne sont pas informés. Le patient en parle et lui explique quelle est cette méthode de contraception masculine et lui demande un suivi médical. Le médecin, il va prescrire un spermogramme, une analyse du sperme pour voir s'il reste des spermatozoïdes dedans, avant et après contraception, et puis il va surveiller qu'il n'y a pas d'antécédents médicaux aussi.
Est-ce que c'est étonnant, vous par exemple, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que votre médecin est tombé de sa chaise aussi, en fait?
Mon médecin est parisien, donc il m'a dit qu'il en avait déjà entendu parler. Il est plutôt jeune et ouvert, mais je crois pas que ça se passe comme ça pour tout le monde. On a pas mal de retours de jeunes hommes qui veulent se contracepter et qui nous disent c'est compliqué, j'ai dû faire plusieurs médecins, on m'a un peu rionné, et tout le monde n'est pas favorable à ça et il y a beaucoup de réticences.
Gerson de Marceau, vous, depuis votre chapelle, j'allais dire, du planning familial, dites-nous, à quoi ils ressemblent les hommes que vous voyez dans les consultations sur la contraception masculine? Est-ce qu'il y a un profil? Est-ce qu'on est dans cette jeune génération de trentenaires, nouveaux féministes, y compris époque post-MeToo aussi? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu une espèce d'intérêt pour tous ces sujets-là, de la part de certains jeunes hommes? À quoi ça ressemble, vos réunions?
Oui, alors juste pour petite, mon prénom c'est Gersande.
Eh ben autant pour moi. et désolé.
Alors le profil des, pas de souci. Le profil des hommes effectivement sont plutôt assez jeunes. C'est plutôt la tranche d'âge 20-30 ans. Ouais. Il y a quelques quarantenaires aussi qui viennent aussi aux consultations. Mais c'est plutôt une population assez jeune d'hommes, notamment parce que ils cherchent une contraception plutôt réversible, alors que les quarantenaires, ils vont peut-être plus facilement se tourner vers une contraception qui est définitive, comme la vasectomie. Et il y a clairement une demande qui est croissante, je pense effectivement liée à tout ce mouvement MeToo et à ce mouvement féministe qui se passe depuis quelques années. Et puis aussi, moi j'ai vraiment vu une petite différence aussi depuis les confinements aussi. Il y a eu une demande croissante suite au premier confinement.
Il y a autre chose que je voulais voir avec vous, Gersande, avant qu'on retourne au standard. Moi, il y a une chose qui m'intrigue et que j'ai lu dans le livre de Guillaume Dodin et Stéphane Jourdain, c'est que il y a une pointe de responsabilité de la part du planning familial. Au fond, ça a été aussi pour vous et pour les féministes du planning un angle mort, la contraception masculine, à un moment dans l'histoire, en tout cas, du planning, non?
Alors, ça a été un angle mort, effectivement. On s'est pas emparé de cette question-là dans les années 70, quand la contraception dite féminine s'est développée. C'est vrai que c'était vraiment pour libérer la femme d'une contrainte d'une grossesse non désirée. Et c'était vraiment axé sur les femmes, même si, parallèlement à ce mouvement, il y avait des hommes qui étaient très proches du MLAC ou du planning familial qui se sont aussi questionnés sur leur propre responsabilité dans les grossesses. Et donc c'est comme ça que plusieurs hommes se sont rassemblés autour d'une association qui est Ardécom et qui ont commencé à réfléchir sur une méthode de contraception, d'où est né d'ailleurs le slip qui remonte les testicules, dont la genèse est vraiment dans les années 70-80. Le planning familial s'est réemparé un petit peu de cette question-là depuis une petite dizaine d'années, et vraiment bien depuis 5-6 ans, où là on a commencé à refaire des formations entre nous et à se remobiliser autour de cette question pas mal vraiment au niveau de la question d'égalité homme-femme, puisque en offrant une contraception aussi pour les hommes, c'est aussi partager la charge mentale et la charge du travail contraceptif qui est pour l'instant uniquement sur le dos de la femme, ou en tout cas principalement.
Guillaume Dodin.
Sur le profil des hommes contraceptés, je souscris à tout ce qui a été dit. Je rajouterais que c'est les hommes qu'on a rencontrés qui se contraceptent, c'est assez fascinant. C'est pas non plus des militants forcenés, c'est d'abord des hommes qui viennent parce que leurs compagnes ont des problèmes dans leur contraception, ne trouvent pas, et eux, ils vont chercher des solutions, et leur premier moyen pour trouver une solution, c'est d'aller sur Internet, parce que les médecins, les gynécos ne leur en proposent pas vraiment, et donc ils vont sur Internet, et ils trouvent, et ils font un peu une revue de commentaires, comme on évaluerait quel film aller voir le soir. Ils font une recherche peut-être un peu plus approfondie, mais ils regardent, et puis ils voient que ces méthodes ne font pas pousser des pustules dans le dos, que ça marche, que les utilisateurs sont plutôt satisfaits, qu'il y a eu quelques études scientifiques là-dessus, et du coup, ils s'engagent là-dedans en se disant, puisque ma compagne a pris un risque jusque-là, je peux aussi le faire.
Quelques études scientifiques, vous dites, moi j'ai été très étonnée en lisant votre livre, il y en a eu vraiment, enfin il y a eu en 1950 le premier essai, il y a eu en 1972, on est en Chine à ce moment-là, il y a même eu une étude de l'OMS en 1999, une vraie étude de l'OMS. Qu'est-ce qui fait, alors vous l'expliquez un peu dans votre livre, qu'est-ce qui fait que ça va jamais plus loin, ces études-là, qu'on s'est arrêté au milieu du guet?
Il y a eu en effet tout un tas d'études, et depuis des dizaines d'années, c'est assez fascinant de le découvrir. On se rend compte que, notamment il y a eu des études de l'OMS dans les années 90, des études de phase 2 assez larges sur plusieurs centaines de couples dans plusieurs pays sur la méthode hormonale. Donc ces méthodes, elles sont quand même déjà assez éprouvées. Et pourtant, en effet, ça marche pas trop. Pourquoi ? Bah parce qu'on a l'impression que les hommes ne se sont pas vraiment saisis du sujet. Ils ont pas poussé pour que ils aient eux-mêmes une méthode de contraception. Ils ont certes le préservatif. Beaucoup de un certain nombre de 15% des femmes l'utilisent comme une méthode de contraception. Mais pour autant, les hommes n'ont pas poussé pour avoir autre chose, pour pouvoir prendre pleinement en charge cette charge contraceptive. Une fois que les hommes ne se mobilisent pas, les labos ont le sentiment qu'il n'y a pas de marché, et donc ils ont fait des recherches, mais ils ne les ont pas poussées plus que ça. Il y a aussi quelques difficultés techniques. Faire une pilule équivalente de la pilule féminine, faire une pilule masculine qui serait à base de testostérone, c'est pas forcément très simple. Ça, on nous l'a souvent dit. Mais on peut penser autrement. On peut imaginer d'autres méthodes de contraception qui ne passent pas par une pilule. Et puis, il y a les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ne communiquent pas sur la charge contraceptive à destination des hommes.
Ah ben, on voit bien, vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup de temps dans votre livre à joindre Marlène Schiappa, qui avait changé de ministère entre le début et la fin
absolument.
De votre livre.
Et on n'a pas eu de réponse de Olivier Véran ni de Elisabeth Moreno. Les pouvoirs publics, eux, à chaque fois qu'ils communiquent, ils parlent aux femmes, en fait. La contraception, on parle aux femmes, on ne parle jamais aux hommes, on ne dit jamais aux hommes ça peut aussi vous concerner. C'est un peu plus le cas récemment, les sites d'information gouvernementaux ont un peu évolué, mais c'est tout récent, et les pouvoirs publics aussi se sont dit, les hommes, en fait, ne sont pas intéressés par ça, donc on ne va pas investir non plus vraiment dans la recherche publique. Et donc, tout ce cocktail, ce cercle vicieux fait que on n'a pas vraiment avancé sur le sujet.
Bonsoir Louis.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, je voulais simplement témoigner. Merci d'avoir pris mon appel. Je voulais simplement témoigner parce que je suis un jeune papa de 30 ans, d'une petite fille de 3 ans, et puis depuis début juillet, j'ai eu une vasectomie. Alors tout se passe bien. On démystifie tout de suite la chose. Ça me fait pas mal. C'est la première question que j'ai eue auprès de mes proches, etc. Et je pense que c'est super important d'en parler parce qu'effectivement, on n'est pas, il n'y a pas que la femme qui doit prendre la contraception. Ça peut être aussi porté par l'homme. Et rien que le fait d'en parler dans mon entourage plus ou moins proche, il y a deux personnes aussi qui sont en train de se dire, tiens, pourquoi pas moi en fait. On n'en parle pas. J'ai dû moi-même faire mes propres recherches. Pour voir comment ça se passait, je me suis pris aussi une petite claque par un urologue qui m'a dit sèchement non, 30 ans, je ne fais pas, point. Le rendez-vous avait duré 3 minutes, donc c'est pas si facile quoi. Il a fallu
en même temps, lui, c'est vrai que 30 ans c'est super jeune.
C'est vrai que c'est super jeune. Après, je suis déjà papa, j'ai l'impression d'avoir de donner déjà tout l'amour que j'ai à donner, j'ai pas besoin de plus. Donc voilà quoi.
Non, je vous en prie, allez-y, finissez.
Tout à l'heure, j'ai entendu que les profils 20-30 ans cherchaient des solutions réversibles.
Ouais.
Alors effectivement, la vasectomie, c'est assez définitif. Cependant, on peut quand même congeler du sperme en amont, ce que j'ai fait moi, et au cas où prise de conscience, j'ai toujours cette petite solution de repli.
Dites donc, on a une question qui est pour vous allez pouvoir y répondre, Louis, sur franceinter.fr. On a un auditeur qui nous demande si la vasectomie est synonyme parfois de baisse de libido.
Pas du tout.
Pas du
voilà.
Tout.
Vous venez de rassurer. Alors non, c'est une femme. Pardon. Voilà. Maintenant, j'ai mis mes lunettes. C'est une femme qui dit j'adorerais que mon homme se contraceptionne. Nous adorons faire l'amour et j'ai peur qu'une vasectomie baisse sa libido. Voilà une dame qui pense à son homme.
C'était effectivement une question que je me suis posée.
Évidemment.
Enfin, le spécialiste m'a dit mais non, il y a aucune baisse hormonale, rien du tout. Vous allez avoir. Enfin, il y a vraiment zéro changement. Et si je peux aller un peu plus crûment, il y a dans l'éjaculat, il n'y a pas de changement non plus, en fait. Il n'y a pas de changement de texture, ni de volume, ni de rien du tout. Mm-hmm. C'est vraiment invisible.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Louis Invisible. Un mot, Guillaume Dodin, on reviendra vers Gersan dans un instant.
La baisse de libido, c'est ce qui a tout de suite été questionné sur la contraception masculine. Ça n'avait jamais été interrogé sur la contraception féminine.
Absolument.
Dans les tests. Et ce qui est amusant, c'est que quand des hommes prennent les méthodes hormonales, c'est un peu l'équivalent de la pilule féminine, sauf que c'est des injections. Parmi les effets secondaires qui sont recensés, il y a un homme qui nous a dit « moi j'avais une hausse de ma libido ». Et c'est l'une des choses qu'il a fait
après. Après une vasectomie ou
non, après il utilisait une méthode hormonale.
D'accord,
des injections,
méthode hormonale, ok.
Voilà, des injections hebdomadaires. Et sa compagne...
Ah mais bien sûr, oui, et même trop d'ailleurs, voilà. J'ai lu dans votre livre, absolument.
Voilà, sa compagne râlait en fait en disant qu'il voulait tout le temps faire l'amour. Et voilà, parmi les effets secondaires, donc c'est plutôt l'inverse du présupposé que l'on a à l'égard de la contraception masculine.
Gersan de Marceau, moi aussi j'ai le même réflexe que le premier médecin de Louis en fait, c'est de lui dire oh là là, mais 30 ans c'est vraiment très très tôt pour une vasectomie.
Alors c'est un peu ce qui se passe dans la réalité, c'est que pas beaucoup de médecins acceptent de faire une contraception définitive, notamment la vasectomie, sur des hommes qui ont moins de 40 ans et qui ont pour le coup un seul enfant, voire même zéro
voire
enfant.
Pas. Mmh.
Voir aucun enfant. Alors dans le texte de loi, la vasectomie est autorisée depuis 2001 et seulement depuis 2001, et elle est autorisée à toute personne majeure. Mm-hmm. C'est les seules indications. Il y a 4 mois de délai de réflexion qui sont nécessaires avant de pratiquer la vasectomie. Et c'est tout, les textes de loi s'arrêtent là. Donc en fait, on pourrait avoir zéro enfant, un jeune de 20 ans qui demande une vasectomie, elle devrait être autorisée sans délai d'âge ou sans délai de réflexion au-delà des 4 mois. Mais vraiment, la réalité montre que peu de médecins sont... ils sont assez réticents dans le fait de faire une vasectomie sur un homme qui a moins de 40 ans.
Et
c'est dans la réalité.
Et Gersan de Marceau, est-ce qu'on sait comment ça se passe chez nos voisins d'ailleurs? Est-ce qu'il y en a qui sont plus au point que d'autres? Ou moins prudes que d'autres d'ailleurs pour parler de cette question-là? Est-ce qu'il y a certains pays où c'est vraiment la vasectomie qui a le haut du panier, si je puis dire, et puis les
Bien
autres
sûr.
Méthodes moins que ça? Comment ça se passe ailleurs?
Dans beaucoup de pays en Europe, autour de la France, il y a des pays, en Espagne, au Royaume-Uni, le taux de vasectomie, d'hommes vasectomisés, est autour de 20%, alors que nous, en France, on est à moins de 1%.
Mmh.
En Australie aussi, ils sont proches de 20% aussi. Donc il y a vraiment quelque chose, nous, en France, où il y a autour de cette politique aussi nataliste, où on questionne énormément les personnes avant de faire une contraception définitive sur cette responsabilité de vous ne pourrez plus jamais faire d'enfant. Et je pense que en France, c'est quelque chose qui reste assez tabou et assez précieux, en fait, tout ce qui est autour de la fécondité.
Guillaume Dodin.
Ouais, la vasectomie, c'est bien la preuve que c'est pas qu'une question de volonté d'homme dans cette histoire. C'est un cocktail, et dans le cocktail, il y a ce que proposent les médecins. Les médecins en France ne proposent pas la vasectomie sur les 10 dernières années. Il y a eu 360 000 ligatures des trompes remboursées par la sécurité sociale. Il y a eu 60 000 vasectomies.
Mmh.
La tendance est en train de s'inverser ces dernières années. Les chiffres des deux opérations sont en train de se rapprocher, mais historiquement, on ne propose pas aux hommes la vasectomie, et dans bien d'autres pays, les États-Unis aussi, la Nouvelle-Zélande, c'est une opération beaucoup plus courante qu'on fait parfois entre amis de manière festive.
Oui, absolument. Aux États-Unis, il y a des réunions de, je sais pas comment on dit,
des brosectomies.
Voilà, exactement, des brosectomies. Ouais.
Ouais.
On n'en est pas là en France encore. Et voici une bonne question, c'est celle d'Armand. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Armand.
Je suis un homme de 23 ans, je suis en couple et je serais vraiment désireux de m'occuper de la contraception dans mon couple. Et sur le principe, ma copine serait tout à fait ok aussi, mais elle, comme d'autres femmes que je connais et avec qui j'ai pu en discuter, ne veut pas me laisser cette charge car ce serait ce serait elle qui subirait les conséquences en cas d'oubli ou d'erreur de ma part.
Mmh. Je trouve qu'elle est intéressante, cette question. Et comment vous l'avez réglée finalement? Donc du coup, Armand, c'est toujours votre partenaire qui prend la pilule, donc?
Oui, voilà, enfin, elle a un stérilet, mais c'est toujours elle qui a la charge de la contraception.
Et mais moi, je trouve que c'est une vraie bonne question. Merci beaucoup, Armand, Guillaume Dedin.
Bah, c'est une question évidemment essentielle. Ouais. C'est sûr que, in fine, la charge et le risque reposent sur les femmes. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, ce qu'on observe, c'est que si les méthodes de contraception masculine étaient développées et qu'il y avait de l'information autour, qu'elles étaient certifiées par les autorités, j'imagine que les choses seraient différentes. Si une femme était informée que la méthode de contraception masculine que pourrait prendre son compagnon est sûre et ne repose pas sur un risque d'oubli d'un seul jour et qu'il y a une certaine continuité, je pense qu'il y aurait plus de femmes qui seraient ouvertes à ça. Mais la remarque de la compagne d'Armand, elle existe, elle nous est revenue aux oreilles. On entend aussi beaucoup de femmes qui nous disent « mais moi j'attends que ça, que mon mec s'occupe de la contraception, je n'en peux plus des pilules et de la charge que ça représente ».
Gerson de Marceau, est-ce que c'est un sujet que vous entendez, vous, chez les femmes? D'ailleurs, les consultations sur la contraception masculine, est-ce qu'elles sont mixtes ou non mixtes?
Alors, les consultations au planning familial sont mixtes. Dans la réalité, aujourd'hui, c'est quasiment que des hommes qui viennent aux consultations. Mmh. Et la question est très intéressante, c'est que il faut aussi se positionner sur la question de est-ce que c'est une contraception individuelle ou une contraception de couple aussi? Il est vrai que si une femme ne veut pas que son partenaire prenne en charge la contraception parce qu'elle a peur des conséquences, si jamais lui, il oublie ou il utilise mal sa contraception, effectivement, les conséquences d'une grossesse non désirée seront principalement sur la femme. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir aussi voir la contraception comme responsabilité individuelle et de penser et d'imaginer aussi que certains hommes se posent la question aussi de se dire, bah moi aussi, je me pose la question de comment ma copine prend sa pilule quotidiennement, et moi aussi, je voudrais doubler une contraception de mon côté. Parce que je voudrais pas être père malgré moi si elle décide de garder cette grossesse qu'on n'avait pas désirée à deux. Donc ça, c'est une question aussi qui se pose énormément aujourd'hui avec le début de l'émergence un petit peu de la contraception masculine et du coup la responsabilité de l'homme dans la prise de contraception. Mais elle est intéressante aussi, elle peut se questionner aussi dans les deux sens. Voilà, de savoir qu'est-ce qu'on fait aussi s'il y a une erreur de contraception du côté de la femme aussi.
Guillaume Dodin, vous racontez que du coup au fil de l'enquête vous avez fini par tester l'anneau thermique. Est-ce que vous l'avez eu cette conversation avec votre compagne ou pas? Est-ce que c'est venu un moment je voudrais vraiment être sûr que tu vas savoir t'en servir.
Non, parce qu'on est dans une relation stable. Ça fait 4-5 ans qu'on est ensemble, et en fait je crois qu'à partir du moment où on fait confiance à quelqu'un pour vivre avec, que cette personne se rend compte qu'on est capable d'avoir un enfant ensemble et d'assumer un certain nombre de charges normales dans la vie d'un couple, bah on peut assumer celle-là aussi. Alors de la même manière que moi j'aurais pu lui rappeler à un moment qu'il fallait qu'elle prenne la pilule si elle l'avait oublié, elle pourrait me faire des rappels, mais voilà, il y a une confiance mutuelle, et si jamais il y a des éléments pour vérifier, on peut faire des spermogrammes qui permettent de vérifier régulièrement s'il y a un souci, si ma fertilité repart, des choses comme ça.
Je voudrais qu'on parle, en parlant de fertilité qui repart ou pas justement, d'abord en combien de temps d'ailleurs la fertilité repart lorsque vous enlevez l'anneau?
C'est 3 mois. De la même manière qu'il faut le mettre 3 mois, il faut prendre une méthode de contraception pendant 3 mois pour qu'elle soit efficace, ça repart au bout de 3 mois, à peu près.
Comment se fait-il qu'on n'ait jamais poussé plus loin et qu'il n'ait jamais vraiment et réellement fonctionné la méthode de l'injection, tout simplement? C'est une injection intramusculaire. On dit là pour le coup que il y a certains effets secondaires qui vont au-delà des effets secondaires qui seraient les mêmes que ceux de la femme, qui est donc de la prise de poids parfois, etc. Y compris des choses cutanées. Là pour le coup, il a été perçu quelques problèmes du côté de la prostate, non?
C'est possible, oui, mais
je l'ai lu chez vous.
Oui, non, mais oui, bien sûr, mais c'était surtout c'était quand même des effets secondaires assez comparables à ceux des femmes. Oui. Mais le fait que ça soit perçu chez des hommes, ça a assez vite ralenti les expérimentations en la matière. Et après, cette méthode-là, elle souffre aussi de la peur de la piqûre, tout simplement. Voilà, parce qu'il y a des hommes qui trouvent que c'est impossible d'avoir une piqûre toutes les semaines. Mm-hmm. Et puis, elle souffre aussi d'un déficit de réseau, c'est-à-dire que trouver quelqu'un qui fait l'injection, trouver le produit, on nous a dit que c'était quand même assez compliqué. Et du coup, je pense qu'une méthode de contraception qui n'est pas simple, qui n'est pas accessible de manière quotidienne chez soi, ça complique aussi.
Une fois par semaine. Voilà. Et en l'occurrence, on pourrait mettre ça au pari. Combien y a-t-il d'hommes qui peuvent aller chez leur médecin en disant « voilà ce que je voudrais » et que le médecin dise absolument « et d'ailleurs, j'ai ça dans mon frigo ». J'imagine que ça n'existe pas ou quasiment pas, non ?
Non, ça n'existe pas du tout. C'est vraiment un produit qu'on trouve en pharmacie et il n'y a pas ça chez les médecins, c'est pas possible.
Grégory, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute ?
Voilà, j'ai fait une vasectomie il y a 3 ans. Ça partait d'une réflexion que j'avais depuis quelques années. J'ai été marié très longtemps. Et puis au moment de mon divorce, j'y songeais toujours. J'ai rencontré ma compagne il y a 4 ans et très vite la question de la contraception est revenue sur la table, si je peux dire. Et je me suis très rapidement proposé de faire une vasectomie. Voilà, donc je l'ai fait il y a 3 ans, ça s'est très bien passé, ça se passe toujours très bien. Notre relation est super, ça n'enlève rien à notre sexualité, comme j'ai pu entendre le témoignage de Louis tout à l'heure. Et ce qui est assez drôle, c'est les réactions un peu genrées que j'ai quand j'en parle. Chez les hommes, c'est plutôt du genre « Ah, tu t'es fait masculer ». Mais je passe pour un super-héros auprès des amis de ma compagne. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal.
Bah écoutez, tant mieux. On est ravis. Et c'est vrai que c'est ce que je disais en introduction tout à l'heure. Vous, Guillaume Dodin, quand vous en parlez, par exemple, est-ce que c'est la même chose, en fait? Est-ce que les hommes vous disent « mais t'es complètement dingue » et les femmes sont plutôt épatées? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe?
C'est à peu près comme ça. J'ai un ami qui m'a dit « tu m'emmerdes, maintenant ma compagne m'embête avec ça ». Il me l'a dit à moitié en plaisantant, mais il y avait une moitié qui ne plaisantait un peu moins. Mmh. Et après, non, on sent des réactions à l'enquête et au ressort personnel de l'enquête, beaucoup plus positive du côté des femmes que des hommes. Spontanément, il y a des femmes qui nous en parlent en nous disant que c'est important que ça bouge sur ce sujet. Mmh. Et il y a un peu moins d'hommes. Les hommes qui viennent nous contacter, ils sont moins nombreux. Par contre, ils sont très enthousiastes parce que aussi ils comprennent pas cette absence de méthodes disponibles largement sur le marché. Ça leur paraît assez inconcevable.
C'est intéressant ce que dit Grégory sur la réaction de ses amis qui disent « ah, tu t'es fait émasculer ». Il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, visiblement.
Oui, il y a la vasectomie, notamment. Ça touche à une peur un peu atavique chez les hommes de perte de fertilité égale perte de virilité. Mmh. Alors qu'en fait, la vasectomie, ça découple complètement les deux. Ça ne change rien aux attributs de la virilité.
Question sur franceinter.fr. Je souhaite savoir combien coûtent ces différentes méthodes de contraception masculine dont vous parlez.
Alors, je vais essayer, peut-être que Gersand sera encore plus précise que moi, je vais essayer 10 euros par semaine, il me semble, le produit pour l'injection hormonale. Mm-hmm. L'anneau thermique s'achète à 35 euros sur Internet, et puis une fois qu'on en a un, je crois que ça peut aller pendant un sacré bout de temps.
Alors j'allais vous demander, ça dure combien de temps? Enfin, je veux dire,
tant
vous pouvez le garder 3 ans, 4 ans.
A priori, il n'y a pas de raison d'avoir besoin d'un autre. Les slips, il faut les fabriquer, mais c'est pas non plus, c'est le coût du textile et de l'huile de coude. Et puis, la vasectomie, alors, c'est remboursé par la Sécu, mais les médecins n'aiment pas trop le faire au-delà de leurs réserves en termes de politique nataliste et de patriarcat. Les médecins n'aiment pas beaucoup le faire parce que ils trouvent que ça leur coûte plus cher que ce pour quoi ils sont remboursés. Et donc, il y a beaucoup de dépassements d'honoraires et parfois ça coûte 6, 7, 800 euros chez certains médecins parisiens.
Gersand, au niveau des prix, d'abord, est-ce que c'est des questions aussi que les hommes vous posent beaucoup? Combien ça coûte? Et de ce que nous raconte Guillaume, les anneaux et autres slips, c'est beaucoup moins cher que la pilule, hein, pour dire les choses clairement. Au niveau des prix, oui. Vous confirmez ce que nous dit Guillaume dans la marge de prix, on va dire?
Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait juste ce qu'il dit. Et après, il y a pas beaucoup d'hommes en fait se questionnent dans ceux qui viennent en consultation se questionnent sur le prix parce que souvent, et comme vous l'avez dit aussi au début de l'émission, ils arrivent avec leur slip ou leur anneau en fait. Donc ils l'ont déjà entre les mains et en fait, ce qu'ils veulent, c'est déjà un suivi de contraception par des spermogrammes. Mmh. Par contre, pour ceux qui se questionnent sur les méthodes et notamment la méthode hormonale qui existe. Effectivement, comme il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, l'injection de testostérone en fait en intramusculaire une fois par semaine n'est pas prise en charge par la sécurité sociale et coûte une dizaine d'euros par semaine. Ce qui revient à une contraception annuelle à 520 euros. La contraception pour l'année, quoi. Ce qui est une sacrée somme.
Écoutez ce mail de Thomas qui est à Chartres et qui est assez dingue. J'ai subi une vasectomie à Nîmes, nous dit-il. Je voulais partager la contraception avec ma femme. On a déjà 3 enfants. Le docteur m'a demandé s'il pouvait faire assister à des élèves, à cette opération parce qu'ils sont très peu à Nîmes à le faire. Alors je suis assez curieuse de savoir si Thomas a dit oui ou non, mais ça dit beaucoup de choses, Guillaume Dodin, ce genre de témoignage.
Manifestement, il n'y a pas beaucoup de médecins qui sont suffisamment formés pour le pratiquer de manière courante. On estime qu'en France, en 2019 et en 2020, il y a eu 13 000 vasectomies pratiquées et remboursées par l'assurance maladie. Donc c'est quand même très peu. Aux États-Unis, le chiffre qui sort tout le temps, c'est 500 000 annuels. Donc ça veut dire que les médecins en France sont peu formés, qu'ils en pratiquent peu. Et ça a aussi une petite conséquence, c'est que les médecins en France ne savent pas faire, ou très peu, la vasovasostomie, qui est l'opération inverse. Il est possible, c'est pas sûr, mais il est possible, notamment aux États-Unis, de revenir en arrière. Une fois qu'on a fait une vasectomie, si on change d'avis, on estime qu'il y a un certain taux de réussite. En France, comme les médecins ne savent pas le faire, c'est encore beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est vraiment une opération encore peu courante.
Gerson de Marceau, voici une question qui est vraiment pour vous, la bénévole au planning familial. On va quand même poser la question à Guillaume dans un instant, mais écoutez ça. La contraception masculine donne encore plus de pouvoir aux hommes. Ils décident de procréer ou de reprocréer ou pas. Qu'en pensent donc les femmes sur le sujet? Et il y a un PS à ce mail qui est signé Antoine et qui dit « Je suis complètement pour le contraceptif masculin ». J'aimerais bien votre avis là-dessus, Gerson de Marceau.
Je sais pas si ça leur redonne du pouvoir. Je suis pas sûre que ça se joue dans la prise de contraceptif dans le sens où s'ils peuvent décider ou non de d'avoir un enfant. Moi, je pense surtout que ça permet aussi de leur prendre surtout une responsabilité qu'ils n'ont pas prise jusqu'à présent. C'est plutôt en termes de responsabilité que de pouvoir. Je trouve aussi que de se poser la question de savoir si oui ou non un homme a envie de devenir père, c'est aussi se responsabiliser, se questionner sur son désir de futur père. Et si ça c'est redonner du pouvoir, à la limite c'est un pouvoir qui a tout son sens dans une future paternité après, un pouvoir responsable et plutôt égalitariste à mon sens.
Guillaume Dodin, sur cette question du pouvoir, moi je trouve ça vraiment marrant. En fait,
c'est questionnement. Elle est assez juste, mais je crois que dans la grande majorité des cas qu'on a rencontrés, c'est les femmes qui, si je puis dire, donnent ce pouvoir aux hommes en leur disant « prends-le, vas-y, moi j'en veux plus, c'est pénible pour moi ». Et donc elles demandent à leur compagnon de gérer ça. Alors c'est sûr qu'après, c'est lui qui est un peu maître de cela, mais c'est une responsabilité, et c'est une responsabilité qui est demandée par ces femmes dans les couples hétéros auxquels on a parlé.
Juliette, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Juliette.
Alors, en fait, je voulais juste intervenir. Moi, je suis tout à fait pour la contraception masculine. Je trouve que, franchement, la vasectomie, c'est vraiment une solution très radicale, surtout pour les jeunes hommes. Pour vous parler de mon exemple, en fait, mon conjoint est argentin et c'est assez courant en Argentine, la vasectomie. Je trouve qu'il a déjà été marié auparavant et qu'il a hésité à faire une vasectomie. Et je me dis, mais heureusement en fait qu'il n'a pas fait cette vasectomie, parce que aujourd'hui on a 36 ans, on a très envie d'avoir un enfant. Et il pouvait pas savoir à l'époque qu'il finirait pas sa vie avec cette femme, mais justement en fait on ne sait pas ce qui peut se passer. Et le fait de faire une vasectomie avant 30 ans, on peut divorcer, on peut rencontrer une autre personne, on peut avoir de nouvelles envies, et je trouve que c'est très très radical quand on est jeune.
Merci beaucoup Juliette, et ça montre aussi Guillaume Dodin combien les choses sont différentes d'un pays à l'autre.
Oui, en fait, absolument.
Parce que, comme on le disait, effectivement chez nous c'est assez rare finalement, d'abord souvent refusé, on l'a entendu avec notre ami Louis tout à l'heure, mais aussi de toute façon assez rare dans cette tranche d'âge là, ce qui n'est pas le cas pour d'autres.
Oui, c'est le cas, mais ce qu'on voit quand même, c'est que les hommes qui nous parlent, surtout ceux qui sont jeunes et qui n'ont jamais eu d'enfants, ils nous disent mais c'est un choix réfléchi depuis 1, 2, 3 ans, je sais que je ne voudrais pas d'enfants, et si jamais ils veulent se garder une sécurité, ils peuvent congeler du sperme. Donc après, la seule différence, si je puis dire, c'est que l'enfant ne sera pas fait sous la couette, mais il sera fait d'une autre manière, voilà, in vitro. Et je crois qu'au final, il y aura quand même un enfant si tout va bien. Donc c'est pas une différence majeure, et ça offre quand même des possibilités de reprise en charge et d'allègement de la charge, surtout pour les femmes.
Gerson de Marceau, est-ce qu'il y a des médecins qui assistent à vos réunions, ou est-ce que vous invitez des médecins à vos réunions pour qu'ils entendent ce que disent les hommes, quels sont leurs souhaits, quels sont leurs discours aussi, pour avoir à la fois pour s'intéresser d'abord à ces questions-là et avoir moins peur aussi lorsque l'un d'entre eux vient pour demander par exemple une vasectomie?
Alors, ils sont, c'est au-delà de réunions, c'est surtout des consultations. Donc, s'ils veulent venir assister aux consultations, ils sont les bienvenus en tant que patients, pour le coup. Mais il n'y a pas de la. Il n'y a pas très longtemps, on a organisé au planning familial justement une soirée d'information justement pour tous les médecins ou les infirmières scolaires ou les du personnel, on va dire, associatif et institutionnel, pour justement informer sur cette existence de la consultation pour la contraception masculine au sein du planning familial, qui a rencontré d'ailleurs un franc succès. Mmh. Et beaucoup de médecins, du coup, à la suite de cette soirée, ont demandé à être formés sur la contraception masculine, à être formés sur le suivi et la prescription de la contraception masculine. Et il y a clairement une demande croissante à ce niveau-là. Et notamment, effectivement, je pense que la demande, elle vient du fait que de plus en plus de patients hommes viennent les voir en leur disant « je souhaiterais être suivi par vous dans mon parcours de contraception ». Et pour le coup, ça bouscule un peu les pratiques des médecins qui, après une petite période peut-être d'hésitation, aujourd'hui vraiment cherchent à se former là-dessus.
Guillaume,
on a senti ça récemment. C'est, j'ai envie de dire, depuis un an, depuis six mois, les jeunes hommes qui veulent se contracepter sont un peu en train de dépasser le pouvoir médical. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent voir les médecins en leur disant « qu'est-ce que vous pouvez faire ? Suivez-moi ». Et il y avait d'ailleurs une enquête de la télé belge là-dessus qui était assez éloquente, où les médecins se retrouvent à dire « il y a des gens qui viennent me voir, j'y connais rien, il va falloir que je me forme parce que sinon ils vont pas passer par nous et ça va être un peu sauvage et c'est évidemment plus risqué de ne pas le faire avec le suivi d'un médecin. Donc il y a vraiment un besoin de formation des médecins en la matière, parce que les jeunes hommes qui veulent se contracepter ne les attendent pas tant que ça.
Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes hommes qui nous écoutent et qui se disent « d'accord, moi je veux bien sauter le pas, donc aller sur internet, chercher un anneau thermique ou un slip chauffant ». Qu'est-ce qu'on leur dit pour éviter qu'ils tombent sur des charlatans ou sur des trucs qui seraient pas efficaces, parce que c'est absolument pas fait comme ça devrait être fait? Est-ce qu'il y a vraiment des endroits que vous conseillez où on est absolument sûr du produit qu'on achète?
Il y a le site de l'Association française d'urologie. On peut aller dans un planning familial aussi, parce que voilà, il commence à y avoir des praticiens formés à ça, et c'est sûrement le meilleur moyen. Et puis il faut aller voir des médecins et leur demander de se former pour que justement ça y ait toujours un regard médical et un suivi là-dessus. Et puis il faut peut-être aussi que les pouvoirs publics, qui commencent depuis quelques mois à se mobilisés sur le sujet, qui ont envie par exemple d'accompagner la méthode thermique et de la rendre, de la certifier, voilà, ils commencent à entamer des démarches là-dessus, bah, il faut qu'il y ait une certaine accélération pour que ça puisse arrêter d'être une pratique qui reste malgré tout, sinon illégale, en tout cas un peu hors des clous.
Voilà. En tout cas marginale, on va le dire comme ça. Martine est avec nous, c'est vous la dernière Martine, mais je vous en prie, profitez-en.
Eh bien j'en profite parce que mon mari et moi avons fait une expérience grâce au professeur Soufir en 1980. Après la naissance de mon premier enfant, je ne supportais plus du tout la pilule et je ne pouvais pas avoir de stérilet à cause d'une malformation utérine. Et donc, pendant 18 mois, mon mari a suivi le protocole du docteur Soufir, un traitement hormonal, mais pas d'injection, c'était un comprimé et pour baisser donc les spermatozoïdes. Et pour contrebalancer, donc, un traitement pour la libido. Et je dois dire que c'était d'ailleurs un peu compliqué pour moi, pour suivre le rythme, hein. Faut dire les choses comme elles sont. Et bon, nous, on a fait cette expérience parce que c'était vraiment pour nous une avancée considérable au niveau du couple, au niveau de, des responsabilités, au niveau de la contraception. Malheureusement, depuis toutes ces années, on suit les choses, mais ça n'évolue pas du tout à notre sens. Là, je suis bien contente d'entendre que des jeunes puissent être sensibilisés, parce que les réactions que j'entends là à votre antenne, c'est celles qu'on a connues à l'époque. On était 80 seulement au niveau national, et moi j'étais une des rares à avoir plus du tout de contraception pendant cette expérience.
Merci beaucoup Martine, vraiment, et vous serez un peu notre mot de la fin, hein, Guillaume Dodin, et c'est vrai que ce sont les pionniers. Vous dites un peu dans votre livre avec beaucoup de tendresse qu'il y a quelques jeunes maintenant, puis sinon ce sont de vieux hippies en fait, c'est de la génération de Martine aussi.
C'est des aventuriers.
Ces gens-là, des aventuriers.
80, quelques centaines au maximum. C'est assez dingue leur histoire, et c'est aussi ça qu'on a voulu raconter dans notre roman graphique.
Et que vous racontez fort bien, et en tout cas fort instructif. On sent bien que les choses sont en train de changer, et c'est tant mieux. Ça s'appelle Les Contraceptés, enquête sur le dernier tabou, publié aux éditions Steinkiss, c'est ça, signé Guillaume Dodin et Stéphane Jourdain. Merci
et
beaucoup.
Caroline Lee au dessin.
Absolument, pardon, Caroline Lee au dessin. Les dessins sont très chouettes, vous vous ressemblez énormément. Merci beaucoup, merci à Gersand aussi de l'autre côté à Montpellier. Merci à tous, portez-vous bien.